podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir comme tous les dimanches sur cette musique signée Gaël Faye. Gaël, auteur de notre générique, mais aussi et surtout du fabuleux roman Petit Pays, et c'est vers ce petit pays de l'Afrique des Grands Lacs que nous nous envolons ce matin avec nos Belges du bout du monde. Alors même s'il n'y a pas de coq pour chanter, le jour se lèvera toujours, dit-on au Burundi, où nous sommes accueillis ce matin par Gilles Javot à Maoro. Gilles.
À Maoro, Adrien, à Maoro, tout le monde.
Vous êtes un jeune papa liégeois, marié à Nadine, une journaliste burundaise, et vous êtes enseignant à l'école belge de Bujumbura. Jusqu'à présent, j'ai pas dit trop de bêtises, c'est ça, Gilles?
Tout est impeccable. Je suis arrivé en 2006 et depuis, je suis resté au même endroit.
Oui, contre vents et marées, malgré tous les événements, depuis 12 ans, il est là, fidèle au poste tous les matins à l'école de Bujumbura, à l'école de Buja. Alors pour dialoguer avec vous, une jeune maman de
27 ans, je viens d'avoir 27 ans.
Bon anniversaire.
Merci.
C'est Gioia Kayaga, alias Joy Slam, parce que vous êtes slameuse.
Voilà, tout à fait, je fais du slam. Et je suis aussi enseignante de français.
Et poétesse, trois métiers, trois pays aussi, il y a en vous un peu de Belgique.
Oui.
Un peu d'Italie.
Tout à fait.
Et un peu de Burundi.
Voilà.
Ouais. Comme un autre artiste que nous vous présenterons tout à l'heure, Gaël Faye, vous avez ces points communs, ces doubles racines. Dans cette émission, nous prendrons aussi la clé des chants avec Deo Gracias Nyankuru. Deo Gracias, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Ravi de vous accueillir en Belgique. Vous venez souvent?
Oui, 3-4 fois par an.
Vous êtes lauréat du prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique, ingénieur agronome burundais, auteur du livre « Pour la dignité paysanne » préfacé par Olivier de Scutter qui dit de vous que vous êtes l'homme qui répare les collines. Moi je connaissais l'homme qui répare les femmes, le docteur Mukwege, mais vous êtes l'homme qui répare les collines.
C'est notre travail, d'essayer de réparer les collines aussi bien au niveau physique qu'au niveau plus humain.
Et il y a du travail, hein.
Il y en a beaucoup.
Il y a du pain sur la planche.
Tout à fait.
Vous restez avec nous jusqu'à 10h tous les trois ce matin. Vous êtes nos Belges du bout du monde.
Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot sur la première.
Laissez-moi vous saluer comme là-bas, Moira Moutse. Bonjour, Caribou. Bienvenue donc pour trois quarts d'heure d'échange entre notre plat pays et celui des mille et une collines. Gilles Javot, arrivé au Burundi, vous le disiez, en 2006, un peu par hasard. Au départ, vous saviez même pas où c'était Bujumbura.
Ah non, complètement. Donc j'ai terminé ma formation en enseignement du français langue étrangère pour soit partir à l'étranger, soit enseigner à des étrangers en Belgique. Et puis je suis tombé sur une petite annonce dans un grand quotidien belge, francophone, et j'ai écrit, postulé, et puis on m'a répondu, oui, ce serait pour Bujumbura. Et donc je ne savais pas du tout où se situait cette ville, et donc j'ai directement sauté sur un atlas ou un planisphère pour situer un peu ce pays et la ville de Bujumbura, et je me suis dit, bah voilà, ça peut être un super défi, et j'y suis parti, et j'y suis toujours maintenant.
Ouais, c'est un beau parcours, je vais faire comme vous, hein. J'ouvre notre atlas, je vois le Burundi là-bas, au cœur de l'Afrique, il partage ses frontières avec, au nord, le Rwanda, à l'ouest, la République démocratique du Congo, à l'est et au sud, la Tanzanie, le Burundi est enclavé, hein. Il n'a pas d'accès à la mer, il possède un grand lac, le Tanganyika, c'est le deuxième plus grand lac d'Afrique, le deuxième lac le plus volumineux au monde, et après le lac Baïkal, le plus profond aussi, c'est aussi le plus long lac d'eau douce du monde. Est-ce qu'il y a encore des crocodiles dans le lac, Gilles?
Oui, on a. Bon, on les voit rarement. On les voit moins souvent que les hippopotames. Mais il y en a certainement qui se promènent dans les végétations environnantes. Mais jamais sur les plages, jamais. Il y a rarement d'incidents avec les crocodiles, mais oui, il y en a pas mal.
D'accord, soyez prudent avec vos enfants quand vous irez à la plage tout à l'heure. Vous en avez déjà vu, Deo Gracias?
Si, j'en ai vu un, juste un, pendant les 12 années aussi que j'ai passé au Burundi. Parce que je dois dire que j'ai vécu l'essentiel de ma vie en dehors. Mais ouais. De temps en temps, on en voit un, mais c'est très rare.
Ouais. Ce pays, Joyce, c'est celui de votre grand-père qui est arrivé en Belgique avec une bourse d'études.
Voilà, tout à fait. En 62, donc il a pu bénéficier d'une bourse d'études et puis voilà, il a rencontré ma grand-mère qui est belge. Et mais après ses études, il a pas voulu retourner au Burundi et il est parti faire sa carrière à Kinshasa. Donc ma maman connaissait pas du tout le Burundi, elle y allait qu'une fois. Et c'est moi qui avais vraiment envie de voilà de retourner au Burundi, de connaître ma famille sur place et qui ai vraiment retissé le lien familial avec eux.
Ouais. Et dans l'album que vous avez enregistré, vous parlez justement de votre retour au Burundi et de vos racines familiales. J'ai été chercher ce petit extrait où vous parlez de votre maman.
Moutama, moutama, moutama.
Maman ne veut plus voir ce pays qui trop souvent saigne. Sans entrevoir d'espoir, elle ne peut accepter la scène.
Moutama, moutama.
Mais ton départ a fait vibrer le fil, corde sensible des racines, l'envie de voir le côté pile et de franchir la ligne.
Moutama.
Babou, tu as mis dans mon sang un peu de ce pays, tu as mis dans le vent les restes de ta vie.
Moutama, moutama, moutama.
Et je viens les cueillir, les chercher à la source. Je dois cesser de fuir pour poursuivre ma course.
Moutama, moutama, moutama.
Et là où maman ne voyait que les collines de la désolation, moi j'y ai appris à aimer d'un amour profond.
Moutama.
J'ai dû tout oublier, tout ce que je pensais savoir. Arrivée, je me suis vidée pour pouvoir recevoir.
Moutama, moutama.
Moutama, moutama.
Moutama, moutama.
Moutama, moutama.
Moutama, moutama.
Ta mort a ravivé la faille, réveillé quelque chose en moi. Un soleil brûle dans mes entrailles. J'ai cessé d'avoir froid depuis qu'il y a un peu de toi dans chacun de mes pas.
Mutahama, ça veut dire quoi Mutahama?
Le sage, enfin c'est un pour les hommes assez âgés et qu'on considère voilà comme des sages ou des références.
Comme votre babou?
Voilà, mon grand-père, et donc moi je l'ai très très peu connu et c'est suite à son décès que je suis retournée au Burundi. Et pour moi c'est très lié au slam parce que la toute première fois que je suis montée sur scène c'était pour faire ce texte Mutahama parce que j'écrivais depuis très longtemps, mais là j'ai vraiment eu envie de partager cette expérience avec des gens et donc avec le public.
Ouais, ouais. Mutahama, nous en avons un en studio, Déo Gracias. Déo, ben un peu comme le grand-père de Joy, vous avez dû fuir votre pays à cause des troubles. Vous vous exilez au Congo, puis au Cameroun. Vous êtes rentré au village, un petit peu comme Joy, pour enterrer, là c'était votre papa. Et vous avez été choqué par l'extrême pauvreté de votre pays natal. Vous avez décidé de vous y réinstaller et d'y fonder Adisco. Adisco, c'est quoi?
Oui, Adisco, c'est une association sans but lucratif qui signifie appui au développement intégral et à la solidarité sur les collines et qui travaille sur trois programmes qui sont tous interconnectés. Un programme d'appui aux mutuelles de santé pour aider les populations à accéder aux soins de santé. Un programme d'appui à un mouvement coopératif pour aider les paysans à améliorer la production et mieux pouvoir la vendre. Et un programme d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes pour essayer de résoudre la question du chômage des jeunes.
Oui, chômage de plus en plus important. Gilles, vous qui vivez sur place en 12 ans, vous avez vu la situation se détériorer?
Ah oui, certainement. D'un point de vue économique, l'inflation est assez extrême pour tous les denrées de base, notamment les importations également. Et forcément, c'est la population la plus pauvre qui en souffre terriblement. Parce que même les gens qui cultivent pour acheminer leur production vers les marchés, ça leur coûte évidemment plus cher puisque l'essence, les transports, etc. Le sont aussi. Donc c'est terrible d'un point de vue économique. La situation est très grave.
Une situation que vous décrivez dans votre livre, Deo Gracias Nyankuru, pour la dignité paysanne. Et moi, j'ai adoré ce bouquin. C'est un livre rafraîchissant, sans langue de bois, écrit par un homme de terrain. Parce que des livres écrits par des profs d'UNIF et des experts d'ONG, il y en a des tonnes, des kilos. Mais des livres comme le vôtre, par quelqu'un qui vit la terre depuis 40 ans, il n'y en a pas. Vous avez pris la plume et vous donnez la parole aux paysans. Ça, c'est nouveau.
Oui, oui, tout à fait. J'ai voulu effectivement essayer de porter au monde entier la parole paysanne, dire exactement ce que les paysans ressentent dans leur chair. Et c'est cela, cette démarche. bien sûr avec de la réflexion sur les questions de développement et sur la manière de les aider à s'en sortir.
Vous parlez du pays voisin en interviewant un Rwandais qui dit « Oui, oui, le Rwanda se développe, mais pas les Rwandais. » Par exemple, ça c'était un petit exemple. Autre exemple, page 31, c'est un vieux du village qui vous dit « Les seuls progrès qu'on voit dans le monde rural sont la moto chinoise, qui permet aujourd'hui de se déplacer plus facilement sur les sentiers du village, et le téléphone portable. Ce sont d'ailleurs des outils qui engloutissent nos petits sous sans générer aucune richesse. Ils nous facilitent certes la vie, mais nous appauvrissent encore davantage. »
Oui, tout à fait. Hein. Et dire que cette parole qui est dite sur le Rwanda pourrait très bien être dite sur n'importe quel pays d'Afrique. Hein. Bon, c'est simplement que là c'est une personne qui me l'a dite.
Ces collines décrites par Déo, vous les parcourez à moto et parfois même à vélo, Gilles.
Oui, c'est un pays extraordinaire à vélo, c'est vraiment fabuleux. Adrien, je crois que vous aussi, vous le savez, les paysages sont incroyables, il y a des sentiers partout, et même les routes sont très praticables à vélo. Et c'est vrai que voilà, dès que je peux partir, je pars, et à pied, en famille aussi, le week-end, bien sûr, on essaye de s'aventurer dans les collines, dans les champs de thé ou autres. C'est fantastique.
Alors moi, je vous conseille la montée vers Bougarama en vous accrochant à un camion.
Oui, tout à fait.
Et puis la descente avec les bananes sur le porte-bagages.
Voilà. Du vélo, tout à fait.
Oui, oui. De belles images, d'ailleurs, qu'on a remis en ligne sur la première.be. Souvenir d'une épopée à laquelle vous avez d'ailleurs participé à l'arrivée, Gilles, au stade... Le stade Vélodrome, le stade principal de Bujumbura. Allez, on continue à se promener dans ce pays, le petit pays avec ce trésor musical signé Gaël Faye sur la première.
Vous aussi, vous connaissez des Belges du bout du monde ? Livrez-nous vos bons plans et vos contacts sur Twitter via le hashtag BBDMRTBF.
Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Magnifique chanson signée Gaël Faye, nominée aux Victoires de la musique. Nous le retrouverons en interview dans 20 minutes sur la première avec nos Belges du bout du monde. Vous êtes une collègue.
Tout à fait. Hein,
oui, vous l'avez rencontré déjà?
Oui, bien sûr, je le connais un petit peu. Et donc, oui, non, moi je suis vraiment totalement fan de ce que fait Gaël. Et voilà, c'est aussi quand je l'ai découvert que ça m'a encouragée à monter sur scène et à oser me lancer et partager mes textes.
C'est un bon mentor.
Exactement, c'est le grand frère, celui voilà. Qui ouvre la voie.
La voie. Vous êtes slameuse, poétesse et formatrice en alphabétisation. Face à vous en studio, Déo Gracias Nyonkuru, lauréat du prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique, celui qu'on appelle là-bas l'homme qui répare les collines. Et au pied des collines, à Bujumbura, Gilles Javot, qui est enseignant à l'école belge.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Le fruit de la prospérité se cueille sur l'arbre de l'effort. Ça, c'est un proverbe burundais que vous citez dans votre livre, Déo Gracias. Vous le citez même en Kirundi.
Oui, tout à fait. Imbuto yumugisha ivakugiti chumuruho.
D'accord.
C'est fondamental, ce proverbe, pour nous. En fait, je pourrais presque dire que c'est ça la devise d'Adisco. C'est-à-dire que ce n'est pas avec la gratuité que le pays va se développer, mais par des hommes qui décident, des hommes et des femmes qui décident de faire de l'effort.
Vous dénoncez d'ailleurs les effets pervers de l'aide humanitaire qui pousse parfois les populations paysannes à attendre que les camions du PAM, hein, le Programme Alimentaire Mondial, passent distribuer les rations de survie plutôt que d'aller travailler au champ. Vous dites que parfois l'aide humanitaire fait plus de tort que de bien.
En tout cas, si vous regardez ce qui s'est passé au Kivu, en RDC et au Burundi, l'aide humanitaire a vraiment détruit les populations. Les populations burundaises, c'était des populations qui sont extrêmement laborieuses. C'était des populations qui sont très fières d'elles-mêmes. Une femme qui ne conservait pas de semences au Burundi était répudiée d'office par l'ensemble de la colline. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante parce qu'on attend que des ONG viennent distribuer des semences. Donc, l'aide au développement a tué l'essentiel de la fierté humaine, l'essentiel de la dignité humaine. Et c'est ça que je dénonce dans le livre.
Pour une dignité paysanne, un livre qui bouscule, qui dynamite les préjugés. Hein. Là, franchement, j'étais bluffé par votre franc-parler. La langue de bois, c'est pas votre truc. Ça s'entend ce matin et ça se lit aussi dans votre livre publié au GRIP. C'est quoi le GRIP ?
Le GRIP, c'est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité.
Alors, vous êtes partisan de l'autodéveloppement, une notion sur laquelle nous reviendrons après avoir feuilleté une page d'histoire, celle résumée du Burundi, un pays monarchique depuis la fin du 19e siècle. Il est devenu une république en 1966, et donc sous l'autorité des rois que le pays a traversé sa période coloniale de 1896 à 1916. L'Allemagne, qui s'est octroyée une bonne partie de l'Afrique orientale, s'est imposée au Burundi en ordinateur, en colonisateur militaire. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est dépossédée de ses colonies africaines. Dès 1916, une convention confie à la Belgique, le Rwanda et l'Urundi, comme on disait à l'époque, un mandat officialisé par la Société des Nations en 1923. En théorie, il ne s'agissait pas d'une colonie, mais d'un protectorat. Et après la Seconde Guerre mondiale, la Belgique est confirmée à la tête de l'administration du Rwanda. Urundi et signe un accord de tutelle en 1946. Et puis, début des années 60, c'est la décolonisation qui touche à son tour le Burundi. Vous avez décidé d'y retourner, d'y vivre. C'est là aujourd'hui que vous travaillez. Comme vous, Gilles Javot, vous auriez pu maintes fois rentrer. Qu'est-ce qui vous a décidé de rester là-bas à l'école belge ?
Je suis arrivé, j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivé en septembre 2006, c'était calme, enfin calme relatif, mais calme. Et jusque pratiquement en 2015, donc au moment du coup d'État raté, j'ai jamais eu de problème d'un point de vue sécuritaire. Et donc ce fameux jour de mai 2015, là c'est vrai que on a eu peur, on était aux premières loges puisque je vivais à 200 mètres de la RTNB, là où on a tenté ce putsch. Heureusement pour nous, on était aux premières loges au niveau sécuritaire aussi, puisqu'on était retranchés aux appartements belges, avec les militaires belges, etc. Et durant cette période, l'école n'a jamais fermé, vraiment. Donc l'école est restée ouverte. Les cours n'avaient pas vraiment lieu. On donnait des cours à domicile aux élèves et du travail à emporter comme on pouvait. Mais on a clôturé l'année scolaire au début du mois de juin, cette année-là. Donc c'est la seule fois en 12 ans que je suis rentré en Belgique début juin au lieu de début juillet. Et alors, autour de la mi-août à peu près, on a eu un message de confirmation comme quoi l'école rouvrait normalement début septembre. Et donc, on a repris l'avion fin août normalement pour reprendre l'année scolaire, avec évidemment une grosse perte d'effectifs à la rentrée, parce que suite au départ des gens, à l'arrêt de certains projets de la coopération et d'ONG, ben forcément, la population scolaire a baissé fortement.
Mmh. Vous, Joy, vous êtes parti à la découverte du Burundi à 20 ans, il y a 7 ans maintenant. Voilà. Vous êtes retourné en 2014, un séjour de 3 mois. Et à l'époque, vous vouliez vraiment vivre sur place?
Oui, 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 j'y pensais vraiment. En tout cas, enfin voilà, moi, c'est un pays que j'adore. J'aimerais beaucoup aussi apprendre la langue. Mon mari est à moitié burundais. Il a vécu ses 18 premières années au Burundi et il ne serait pas contre non plus de retourner. Donc, on y réfléchissait. Et puis, 2014, 2015 est arrivé très vite. Et là, on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu de voir comment la situation évoluait. Et voilà, 2016 a été une très bonne année pour moi pour le slam. Donc, j'ai un peu reporté tout ça. Mais on garde l'espoir et l'envie très, très forte d'aller s'y installer. Oui.
Votre séjour au pays des mille et une collines vous a inspiré de jolis textes, dont celui-ci.
Je suis partie. Je suis partie visiter le pays des mauvaises nouvelles, ou selon d'autres encore, le pays des mille problèmes, celui qui a mis sur ma peau un peu de son miel. Je n'y ai pas trouvé un fardeau, mais un don du ciel. J'y ai appris que la joie et le beau ne s'annoncent pas par téléphone, que la valeur d'un cadeau est dans les yeux de celui qui le donne. Je suis partie voir là où d'autres détournaient le regard, tisser ma toile, deux à moi, pas à pas, au fil des voyages, abreuver ma soif à une source qui ne tarit pas, découvrir la joie en même temps qu'un chez-moi, je ne vis plus que pour retrouver mon Tanganyika. Si la dictature me l'a volé, le temps me le rendra, j'apprends la patience et la foi, je garde espoir. En attendant, chez Western, tous les mois, je leur envoie de l'amour. Si tu crois que je me fais avoir, attends de savoir ce que je gagne en retour.
Le Burundi vu par Joaya Kayaga. Waouh, c'est fort ce texte. Qu'est-ce que vous en pensez, Deo Gracias?
Il est magnifique, hein. Il est vraiment magnifique. Le Burundi est un très beau pays. C'est des populations qui sont extrêmement attachantes. Moi, j'ai voyagé dans toute l'Afrique. Et j'ai même travaillé dans des organisations prestigieuses où j'ai gagné de l'argent. Mais quand je suis au Burundi, je me sens chez moi, je me sens 10 fois plus utile.
Il y a une vibration voilà. particulière. Ouais.
Vous expliquez d'ailleurs dans le clip, hein, on a mis un petit bout là sur antenne, mais sur la première.be, sur la page Facebook des Belges du bout du monde, le clip est en intégralité, que le Burundi vous a offert les seules valeurs qui vous ont enrichi.
Oui, tout à fait. Et c'était vraiment pour retourner cette idée où on a souvent l'impression en Europe qu'on doit aller apporter des choses en Afrique. Et moi, j'ai l'impression que justement, pour aller au Burundi, je me suis mise à nu et que c'est eux qui m'ont rempli et qui m'ont apporté des choses. Et je pense qu'il faut vraiment inverser cette idée que c'est toujours nous qui avons des choses à aller pour enrichir le pays. En fait, il faut se laisser enrichir aussi par tout ce que ce pays et tout ce que surtout les populations ont à apporter.
Et je trouve ce que Joy vient de dire est tout à fait juste. C'est pas forcément à nous, Européens ou autres, à apporter des choses ici, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre de la population locale. Et moi, ce qui m'a marqué le plus, sans doute, c'est justement ce concept de Mutama que Joey évoque dans la chanson qu'on a écoutée. Ce respect pour les anciens qu'on n'a pas forcément, nous, en Europe. Ici, c'est inconcevable d'abandonner, entre guillemets, un grand-père ou un ancien dans un home ou dans une maison de retraite. Et ça, franchement, c'est extrêmement fort. Et je crois que c'est vraiment la valeur qui, moi, m'a le plus touché, marqué, et que je retiendrai et que j'essaierai aussi de communiquer aux connaissances que j'ai en Belgique quand je reviens, quoi, voilà.
Parole de sage, parole de Mutahama. Merci, Gilles Chavot. Vous restez des nôtres jusqu'à 10h. Dans un instant, sur la première, Gaël Fay va nous raconter son enfance au Burundi.
Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF.
Bon dimanche avec nos Belges du bout du monde au Burundi. Gilles Javot, enseignant à l'école belge de Bujumbura. Joy Slam, slameuse, poétesse, formatrice en alphabétisation. Et Deo Nyunkuru, l'homme qui répare les collines, lauréat du prix Roi Baudouin pour le développement en Afrique. Et puis Jody Bo, qui va nous raconter dans quelques secondes l'histoire, l'enfance de Gaël Fay au Burundi.
Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde.
Cette chanson vous rappelle peut-être quelque chose. C'est normal, c'est le générique de notre émission depuis 3 ans. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'auteur de cette mélodie appelée Petit Pays, Gaël Fay.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs.
Il vient du pays des collines au cœur de l'Afrique des Grands Lacs, franco-rwandais avec une pincée de belgo-burundais.
J'aime à dire que j'ai grandi dans un bout de Belgique en Afrique. Même les maisons, finalement, quand j'ai la première fois que je suis allé à Bruxelles, j'ai remarqué que les maisons ressemblaient aux maisons de chez nous. maisons en briques. Il y a aussi le style Baos qu'on retrouve à Bruxelles et qui est très présent à Bujumbura.
Auteur, compositeur et interprète de musique métissée entre le rap, le hip-hop et la musique créole, il est également l'auteur du livre Petit Pays. Dans cet ouvrage, il caricature l'époque où il fallait des brouettes de billets pour s'acheter une bière.
Je garde ce souvenir très original de ces gros billets de banque qu'il y avait, où plusieurs zéros derrière, et puis les liasses que les gens avaient sur eux, même les plus pauvres étaient millionnaires. Il y avait quelque chose de complètement absurde, presque kafkaïen.
À l'époque, il travaillait pour un fonds d'investissement à Londres. Il estimait que son travail était néfaste pour la société.
Oui, je le ressentais comme ça, parce que nous étions très bien payés et en même temps, on n'avait pas de prise avec le réel. Donc finalement, on était bien payés pour des choses qui ne touchaient pas l'humanité entière, mais juste une petite partie de cette humanité, les 1% comme on dit. Donc oui, je me suis senti mal à l'aise très rapidement.
À l'heure actuelle, il a décidé de vivre un peu plus pauvre, mais libre.
Oui, complètement. Pour moi, un métier ne doit pas servir à gagner de l'argent, mais gagner une forme d'honneur. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours.
Dans son livre, Gaël Faye fait un petit clin d'œil à Gadjanine, qui était la voisine de sa maman quand elles étaient enfants.
Gadjanine, c'est une très grande fierté pour le Burundi parce qu'elle a porté très haut les couleurs de ce pays. Elle l'a fait connaître au monde à un moment où il était encore plus inconnu qu'aujourd'hui. Et je me souviens que, petit garçon, dans les rues de Bujumbura, on était très fiers de cette dame qu'on voyait passer. Elle avait une Mercedes un peu brinque-ballante comme ça, mais elle était toujours pieds nus. Et ça nous intriguait. Comment quelqu'un qui passe à la télé, quelqu'un qui est si renommé mondialement, peut marcher pieds nus comme ça? Et on adorait cette femme. Billy 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 Billy
Billy Billy Billy Billy Billy sur un croissant au beurre. Billy 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 sur un croissant au beurre. Bon petit déjeuner, ça c'est le métissage culinaire à Bujumbura avec votre épouse Nadine qui est journaliste burundaise. Vous êtes plutôt banane plantain ou poulet frites, Gilles Javot?
Ah, les deux. On est mix dans notre couple, on est mix dans notre alimentation, on varie, voilà, chacun ses goûts. Et on partage souvent nos goûts et on arrive à apprécier le goût des autres aussi. Et voilà, c'est important aussi.
Ouais, c'est un bon titre pour une émission, le goût des autres. C'est pas mal, très bien. Merci beaucoup, hein, Gilles. Joy Kayaga avec Gaël Faye, vous avez ce point commun, hein, double culture, l'Afrique des Grands Lacs, l'Europe, la France pour lui, la Belgique pour vous. Vous avez de la famille à Bouraza. Il y a toujours la parcelle familiale là-bas.
Voilà, tout à fait. Donc moi, il y a très peu de gens de ma famille qui vivent à Bujumbura. Ils sont dans la province de Gitega et donc un tout petit village qui s'appelle Bouraza. Et voilà, moi, c'est vraiment là que j'ai eu ma révélation par rapport à ce pays où je me suis sentie le mieux, alors qu'il y a la plupart de mes tantes qui ne parlent pas français. Donc, on essaie de communiquer comme on peut. Mais voilà, c'est là où mon grand-père est né et j'ai toujours de la famille. Voilà, il cultive. Donc, c'est pour ça que j'étais très intéressée par ce que racontait Déo, des éleveurs de bétail, de chèvres, des cultivateurs. Et c'est vraiment là, je pense, où on touche le Burundi dans ce qu'il est vraiment.
Oui, oui. Des petites maisons sans eau ni électricité, c'est là que vous aviez vécu?
Oui, tout à fait. C'était une bonne claque quand on vient d'Europe et de son petit confort, voilà, de se retrouver dans une maison où on n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'on entend les souris qui font du bruit. Mais c'est vraiment là que j'ai eu une révélation sur les gens. Et puis moi, j'adore les enfants, donc là, je suis rassasiée. Il y en a partout.
Oui, pour la dignité paysanne, c'est le titre de votre livre, Deo Gracias. Vous ne pratiquez pas la langue de bois. Hein. Vous n'avez pas peur d'écrire que les méthodes coloniales top-down, hein, donc du sommet vers la base, ont produit de meilleurs résultats que 5 décennies d'indépendance, et ce malgré l'introduction de stratégies dites participatives. Moi, j'aurais pas osé écrire ça. Hein.
Oui, et chaque jour, j'ai l'impression que c'est encore plus vrai. Parce qu'en fait, le grand problème même de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'a jamais été décolonisée. Ce sont les grandes agences de développement qui définissent les méthodes de vulgarisation, les méthodes de formation, les paquets technologiques. Parce que pour elles, le développement signifie rattraper l'Occident. Mais c'est encore plus grave, parce qu'il s'agit aussi de proposer des méthodes qui, finalement, oblige les Africains à ne cultiver que des produits qui se vendront sur le marché international. Donc c'est en fait une voie détournée pour les multinationales de pouvoir contrôler l'alimentation des Africains. C'est en fait une volonté de conquérir un marché extrêmement important qui représente plus de 400 milliards de dollars par an pour pouvoir nourrir l'Afrique.
Ouais. C'est assez pervers, hein, comme démarche.
C'est extrêmement pervers. Et le problème, c'est que les facultés d'agronomie, les acteurs aujourd'hui de développement, tous pensent que c'est bien cela le modèle. Ouais. Rattraper l'Occident. Au lieu d'arriver à construire des politiques propres à l'Afrique.
Avec des gens de la terre, avec des gens comme vous, et pas des cerveaux et des énarques qui ont étudié à l'université et qui connaissent moins bien l'Afrique que vous qui avez travaillé 40 ans dans l'agriculture.
C'est ça. Il suffit d'avoir vécu avec les paysans longtemps, oui. D'avoir partagé leur, leur
quotidien,
bière.
Ouais, hein. Leur bière, oui, leur bière de mille, bière de sorgho.
Leur guagua ou leur bilbil dans le Nord Cameroun. Pour comprendre qu'est-ce que nous leur racontons, c'est de la foutaise, je m'excuse.
Alors le Burundi, on l'appelle aussi le pays des mille et une collines. Hein. Il y a des eucalyptus, des plantations de bananiers, des champs qui recouvrent les hauts plateaux, des palmiers à l'ouest, du thé et du café à l'est du pays et sur les flancs de montagne. Le café qui représentait il y a peu 80% des recettes d'exportation du Burundi et la moitié de la population du pays dépendait de cette filière pour assurer ses revenus. C'est encore le cas aujourd'hui, Odéo ?
C'est absolument le cas. Il y a eu quelques améliorations. Le thé a pris un peu plus d'importance que dans le temps. Quelques mines commencent à être explorées, mais le café reste le pourvoyeur le plus important des devises du pays, des revenus monétaires pour les populations burundaises.
Vous avez décidé aussi de vaincre la haine et le mépris par le dur labeur au service des paysans. Ça, c'est un hommage à vos parents, à votre maman.
Oui, oui, oui. Vous savez, dans un pays comme le Burundi, il est très, très facile de tomber dans la haine. Il est très, très facile de tomber dans des camps, de se ranger dans des camps. Et du coup, de participer sous une forme ou dans une autre, dans le renforcement de la haine qui est en train de déchirer notre pays. Et moi... En tant qu'acteur de développement, il est important de dire aux gens, ça suffit. Il est important de dire que ces conflits ou tout aussi, comme les cris, comme le dit mon oncle, c'est des choses qui ont été inventées par les intellectuels qui veulent se positionner, qui sont à mal de slogans électoraux et choisissent alors de diviser les gens. Et donc, travailler pour ressouder les gens, travailler pour montrer aux gens que ces conflits qui sont en train de se créer autour de ça sont en train de les desservir. C'est extrêmement important et c'est ce que nous essayons de faire.
Deo Gracias Nyankuru qui publie « Pour la dignité paysanne ». Joyce Lam, ça pourrait être votre papa, voire votre grand-père, mais vous buvez ses paroles. Hein.
Oui, tout à fait. Non, je suis très attentive et je le rejoins voilà, tout à fait sur ces questions ethniques qui finalement ne font que créer toujours plus d'insécurité, de pauvreté, de haine. Mais voilà, c'est difficile aussi de venir dire aux gens il faut réussir à faire table rase de tout ce qui s'est passé avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui gardent des rancœurs de ce qu'il y a eu dans le passé. Et le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de justice au Burundi. Les gens parlent très peu, et je pense que voilà, il faudrait aussi réussir à libérer la parole et à ce que les gens puissent s'exprimer sur ce qui les a fait souffrir pour pouvoir passer à autre chose.
Libérer la parole, c'est un peu votre métier. Hein. Vous êtes poétesse, slameuse, formatrice en alpha aussi, très connue un peu partout dans le monde, un peu moins en Belgique. Hein. On va dire que nul n'est prophète en son pays, mais je sens que 2018 va être votre année.
Ah, j'espère.
Ah, Joy, je le sens, je le sens. Vous avez fait l'ouverture du sommet de la francophonie à Madagascar.
Tout à fait.
Et vous nous avez ramené une collaboration musicale avec un artiste de là-bas. Vous chantez même en malgache. Lui en malgache, vous en français, c'est un beau mélange.
Oui, 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 tout à fait. Et c'était la deuxième fois que j'allais à Madagascar. Le slam est très développé là-bas. Et ce sommet de la francophonie, c'était vraiment une occasion en or de pouvoir voilà, faire partager un texte devant François Hollande à l'époque, Trudeau pour le Canada, beaucoup de présidents africains. Et ça a été une très, très belle expérience.
On vous écoute dans ce morceau intitulé « Akori Kabaru ». Gardons espoir, on ne s'est pas dit adieu, juste au revoir. C'était Joy Slam sur la première, en duo avec un artiste malgache.
Oui, tout à fait. Alors ça se prononce pour nous Jao, mais là-bas ça se dit Zao.
Alors vous, ça se prononce Joya.
Joya, voilà,
ouais,
la
ouais.
Joie.
Bah voilà, vous portez bien votre nom, je trouve.
Merci.
Votre prénom, vous l'incarnez,
oui,
c'est vrai, hein, Deo Gracias.
Tout à fait, ouais. Oui.
Et vous aussi, je trouve que Deo Gracias se voit bien aussi, je trouve.
Ouais.
Ouais, c'est vrai. Déo, comme ça, vous avez un côté un peu sagesse.
C'est ce poids-là hein, que je porte.
Oui, oui, sagesse divine avec nous jusqu'à 10h sur la première. Joy, la slameuse. Déo, l'homme qui répare les collines. Et puis Gilles Javot, enseignant à l'école belge de Bujumbura.
Les Belges du bout du monde.
9h-10h sur la première.
Avec Adrien Jouvenot.
Gilles Javour, le programme d'un dimanche à Bujumbura, quand on est papa de deux petits bouts, c'est quoi ?
Ah ben alors, lever tôt, hein, pour un dimanche avec des enfants, on se lève très tôt. Voilà, petit déjeuner. Souvent, on arrive à un moment donné où on va se balader au bord du lac, sur les plages. On mange une petite brochette à midi.
Une brochette de chèvre ?
La maman est plutôt chèvre, le papa plutôt bœuf. Mais sinon, voilà.
Et le papa vient de Belgique, la maman du Burundi aussi. Hein,
c'est exactement, oui, oui, voilà, c'est ça.
On ne renie pas ses racines.
Et,
oui.
Et un petit tour en vélo en fin d'après-midi, avec le petit qui commence à bien rouler aussi. Et voilà.
On parlait tout à l'heure de la force des prénoms. Ulysse, c'est pas mal quand même pour des parents voyageurs comme
tout à fait.
Comme
oui,
vous.
Oui, oui. Oui. Exactement. Je crois que la majorité des gens qui le croisent lui font la réflexion et commencent à enregistrer maintenant qui était ce fameux Ulysse. Et je crois qu'il est assez fier aussi, donc voilà.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, le grand frère de Noémie. Dans le livre de Frédéric Thiébault, Les Belges du bout du monde, vous déclarez votre flamme à la Belgique, Gilles. Alors faites-le nous ce matin en radio, si vous voulez bien, avec cette musique qui devrait vous rappeler des souvenirs. Tendez l'oreille. Alors, au garde à vous, ben je vous écoute, je vous écoute, la main sur le cœur, allez-y Gilles.
Ben oui, c'est vrai, voilà, pour moi, la Belgique, c'est plus que jamais mon pays. Je crois que depuis que je suis ici, je n'ai jamais été aussi patriote. Je ne manque rien de ce qui fait son actualité, je la défends en permanence. J'adore la retrouver durant l'été quand je suis en vacances pour la revisiter encore et encore. Et voilà, ça reste dans mon cœur, forcément.
Ah, c'est une belle déclaration. Dans votre livre à vous maintenant, Deo Gracias Nyonkuru, à l'avant-propos, vous êtes très humble. J'ai commis de très nombreuses erreurs, parfois grossières. Mais chaque jour, je découvre que d'autres personnes et organisations, parfois prestigieuses et même en charge de tracer la voie aux autres, répètent les mêmes erreurs et cherchent à les imposer comme des modèles infaillibles. C'est pour casser cette spirale infernale que vous dénoncez justement les pratiques de l'aide humanitaire, Deo Gracias.
Oui, oui, tout à fait. Parce que moi aussi, j'ai été victime de ces stéréotypes, de ces modèles qui sont imposés d'en haut, parfois de manière très astucieuse. Donc, je les ai copiés, je les ai mis en œuvre. Je me suis très souvent trompé. À un moment donné, j'ai fait de la promotion des cultures pures. Ce qui est une catastrophe aujourd'hui en Afrique. J'ai passé mon temps à faire de la vulgarisation, presque à imposer des systèmes aux gens. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé. Et c'est donc le devoir, ce devoir qui m'a poussé à écrire, pour les dénoncer, pour dire ça suffit, il faut qu'on remette les paysans au cœur des processus de développement.
Et partir de la base ?
Partir de la base. Plus que ça, faire en sorte que les paysans deviennent des acteurs et non plus des sujets de développement.
Et puis abandonner la logique que vous qualifiez de rattrapagiste, stopper cette course infernale pour rattraper les pays développés et reproduire leur modèle de développement. À l'Afrique, il faut son propre modèle.
Exactement. Des modèles où l'Afrique croit qu'elle doit se battre pour rattraper l'Occident. C'est un fossé immense. Au lieu d'essayer de poursuivre le modèle occidental, il faut se définir sa propre voie. Il faut rentrer sur de la consommation locale. J'entends notre ami à Bujumbura,
Gilles
qui mange une brochette de chèvre. C'est de la valorisation de la culture locale. Et il y ajoute sans doute du moukéké, un peu de patate douce et de haricots.
Ah, c'est
comme cela que l'Afrique va se développer. C'est comme ça qu'on peut espérer que dans quelques années, on va avoir des restaurants africains à Bruxelles et à Paris.
Oui. Alors, Gioia Kayaga, vous êtes d'origine burundaise, italienne, belge aussi. Et votre papa, c'est marrant parce que c'est un lien, ce que disait Deo Gracias, votre papa travaillait dans une escargotière.
Tout à fait. Il a développé une escargotière.
Ah, il a même créé son entreprise.
Voilà, c'était la première en Belgique, tout à fait. Il a étudié l'agronomie aussi. Donc, voilà. Et lui, c'est vraiment une entreprise familiale. Il y a mon grand frère, ma maman, qui travaille là et qui développe cette entreprise.
À Warnant.
À Warnant, voilà. Maintenant, il y a pas mal de... On dit héliciculteur. Voilà, c'est le terme savant pour éleveur d'escargots. Mm-hmm. Alors, ça semble très étrange au Burundi d'élever des escargots. Mais j'ai quand même pas mal d'amis de passage qui ont accepté de goûter à condition que je ne le répète pas à leur famille quand je vais au Burundi. Ça doit rester un secret.
C'est bien. Est-ce que ça provoque une espèce de manque chez vous, Gilles Javot? Parce que, bon, des brochettes de chèvre, tout ça, c'est bien, mais bon, du carré, de la cité ardente et tout ça, ça doit peut-être donner parfois un peu soif. Il y a des choses
qu'on peut
vous apporter quand on vient vous dire bonjour.
Bien sûr, un morceau de fromage, une bière spéciale, un peu de charcuterie, des escargots pas forcément, je suis pas un grand fan, mais oui, ça c'est sûr. Bien qu'on trouve quand même pas mal de choses ici, mais forcément beaucoup plus cher qu'à la source. Mais voilà, c'est évidemment un manque qu'il y a sur place. Mais évidemment, ce qu'on trouve ici est excellent, et surtout bio et bien, voilà.
C'est sûr que tous les paysans burundais, ils font du bio de façon naturelle, Déo Graciès.
Hélas, non.
Non, pas tous, non.
Non. Aujourd'hui, par exemple, tous les produits de maraîchage ne sont plus bio. C'est exactement ça que je dis. On est en train de mondialiser tout le développement agricole des États. Moi, j'ai même l'impression qu'une tomate burundaise, et je n'exagère pas, certainement 5 fois plus polluée qu'une tomate belge. On a dit aux gens que pour se développer, il faut déverser des engrais et des pesticides. Et justement, le secteur maraîcher, c'est lui qui est le plus touché. Par contre, les autres cultures en Afrique, le manioc, la patate douce, le haricot un peu moins, eh bien, sont des cultures bio. Et la différence est claire entre un produit bio, entre un poulet naturel et un poulet fabriqué à base d'hormones, c'est complètement différent. Et c'est ces valeurs qu'il ne faut pas perdre. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a 11 millions de Burundais.
Ouais, c'est un pays grand comme 27 000 km², un peu plus petit que la Belgique, et 11 millions d'habitants.
Tout à fait, 11 millions d'habitants. Et un pays qui est en train de... qui essaye, dans des situations difficiles, de se remettre, de se construire des bas et des hauts, mais des populations qui luttent. Des populations qui ne veulent que la paix.
Le mot de la fin, il vous revient, Déo Graciès. Je vais demander à Joy de lire les toutes dernières phrases de votre livre, page 508, parce que c'est une brique, hein, votre livre.
Refusons une civilisation fondée sur l'enrichissement effréné de quelques-uns et qui conduit à la dégradation irréversible des ressources naturelles. Revendiquons des politiques publiques favorables au développement et à la paix. Cessons de croire que c'est aux autres qu'incombe la responsabilité de nos misères ou de notre salut et engageons-nous résolument dans la transformation de notre vie avec ce message divin « Lève-toi et marche ». Lève-toi, paysan d'Afrique.
Alors, vous terminez même en disant « lève-toi » dans différentes langues, les langues pratiquées au Burundi, Déo.
Oui, tout à fait. « Simam » en Swahili, « Telema » à Lingala, « Tebegasi » en Beti, « Yiki » en Moré et en Kirundi, « Haguruka ». Lève-toi, peuple d'Afrique, lève-toi, paysan. C'est toi seul qui pourra te dresser pour faire revenir et la paix et la prospérité de nos pays.
Murakoze. Merci beaucoup, Déo Graciès, Nyonkuru. Merci beaucoup, Joya, qui est la slameuse que vous allez entendre en 2018. Ça va être la future Stromae, la nouvelle Gaël Faye.
Ça, c'est un bon souhait, en tout cas.
Oui. Bravo. Joy Slam, hein, si on vous tape votre nom sur la toile et sur la page Facebook des Belges du Bout du Monde, on a mis vos clips. Très belle rencontre, franchement, avec vous aussi.
Plaisir partagé.
Gilles Javot, merci. Gilles, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Et je dis Murakoze à Paul Michel qui réalise cette émission, déjà disponible sur ovio.be. Dans un instant, les décodeurs New Look avec Marie Van Kutsem aux commandes, juste après le journal parlé de 10h sur la première. Podcast.